dans les cœurs. Aïcha, radiallahu anha, si je ne me trompe pas, c'est elle-même, ça, c'est au sujet un peu, elle disait qu'elle parlait de Ijazat, hadith que le prophète dit que si une de vos femmes vous demande l'autorisation pour venir à la masjid, ne refusez pas. C'est un hadith adressé aux hommes, bon, dans le contexte bien sûr, et Aïcha, elle a dit que si le prophète nous voyait aujourd'hui, il n'aurait plus donné l'autorisation. Parce qu'il y a eu un changement dans les cœurs. Mais pourtant, ce sont toujours des sahaba, ce sont toujours des tabi'in, au pire, ou des atba' et tabi'in, mais au décès du prophète, ça nous montre aussi comment le prophète sallam dégageait un baraka, un nour exceptionnel. Vous vous rendez compte, pour être sahaba, il suffisait de voir le prophète sallam une fois, une seconde. Une personne qui avait le prophète sallam une seconde, pendant un voyage, une salat fait dans Masjid Nabawi, il y avait le prophète sallam une fois, même s'il n'a pas conversé avec le prophète sallam, cette personne était sahaba. Elle avait un degré supérieur. Et lorsque les gens ont parlé des qualités de Hazrat Omar ibn Abdel Aziz, celui qui était le plus juste dans toute l'histoire de l'islam, après les sahaba bien sûr, qui n'était pas sahaba, qui était petit-fils ou arrière-petit-fils de Hazrat Omar, je ne sais pas quel sahaba il avait dit que qu'est-ce que vous pouvez dire de Omar ibn Abdel Aziz, Omar, il avait certes ses qualités, mais il disait qu'une poussière sous les chaussures de Muawiyah vaut mieux que Omar ibn Abdel Aziz. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'un sahaba, c'est incomparable avec quelqu'un qui n'a pas vu le prophète sallam. Même si Omar ibn Abdel Aziz a fait ce que peut-être jusqu'à maintenant personne n'a jamais fait pour un pays musulman, mais un sahaba pourtant, un des sahaba les plus controversés, alors qu'il ne devait pas l'être, Hazrat Muawiyah, donc on connaît l'histoire, même ce, astaghfirullah, le fait de dire même, c'est pas bien. Ce sahaba qui est pourtant controversé, une poussière sous ses chaussures, vaut mieux que Hazrat Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah. Pourquoi? Parce que voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc, plus on s'éloigne de le temps, moins les gens, ils ont ce degré de iman et ce rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Abi Shayba il raconte que يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن. Viendra une époque où les gens ils se réuniront, ils feront leur salat en jamaat dans la masjid, mais il n'y aura pas un mu'min parmi eux. C'est-à-dire que ces gens ils sont là, ils font la salat, il y a un imam, il y a peut-être des gens en premier saf, mais il n'y a pas réalité de iman. Il y a même des hadiths qui parlent des ulama aussi. Mais bon, on préfère ne pas parler de ça, que même il y aura des gens qui auront ilm, mais malgré ça, la réalité de iman n'y sera pas. Taïb, Prophète Salam dit dans le hadith que viendra une époque que yusalli fil masjid minhum alf, dans une masjid, il y aura 1000 personnes qui font la salat au ziyada, ou plus que 1000, la yakunu fihim mu'min, mais parmi tous ces gens-là, on ne trouvera pas une personne avec le iman, comprenez, une personne avec la réalité de la foi. Et Ibn Mas'ud, il dit que parmi les signes de Qiyama, c'est que an yusalli khamsuna nafsa, que vous allez voir 50 personnes qui font leur salat, mais il n'y a pas une seule de ces salats qui est acceptée par Allah. Ça, c'est grave. Ibn Mas'ud dit que 50 personnes font leur salat, mais parmi ces 50, il n'y a pas une personne dont leur salat est acceptée par Allah. Parce qu'il n'y a peut-être pas les conditions, il n'y a pas le khushu, on verra peut-être si on a le temps, que la première chose qui va être enlevée des cœurs des gens, c'est al-khushu, la dévotion. Ces gens, ils font la salat, ils font les ibadat, mais souvent, on a compris que ces actions, ce sont là, c'est une routine ou c'est un héritage culturel. On a hérité la salat ou la zakat de nos grands-parents. Nos parents, nos grands-parents, ils le faisaient. Et donc, nous, on continue à le faire sans comprendre la réalité des actions. Il n'y a pas la concentration. Il n'y a pas la dévotion. Taïb. Et l'effet que ces amals doivent produire sur nos cœurs n'y sont pas. L'objectif du jeûne, c'est quoi? La'allakum tattaqoun. Vous avez entendu 50 fois de le Ramadan. L'objectif du Ramadan, c'est la taqwa. L'objectif de la salat, c'est quoi? Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Une personne qui fait sa salat comme il le faut, avec les conditions, normalement, cette salat doit avoir un tel impact sur son iman que cette personne ne peut plus continuer à faire le péché. Hadith dans lequel une personne dit au prophète d'Allah, telle personne a cette habitude de voler. Le prophète dit, est-ce qu'il fait son namaz? Il dit oui. Elle dit, laisse. Une autre fois, la personne dit au prophète d'Allah, cette personne continue à voler. Elle dit que la salat qu'elle fait changera son cœur. Effectivement, après, la personne du prophète d'Allah, khala, cette personne ne vole plus. Hadith, les commentaires hadith disent que la salat, qui est accomplie par un musulman, efface les péchés du cœur, bien sûr, mais enlève le désir du péché. Mais quelle salat, ça? C'est une salat faite avec les conditions. Et quand je dis les conditions, c'est pas que le wuzu soit fait comme il le faut. Parce que le wuzu, c'est le même wuzu. Les arkan, les piliers de la salat, les conditions, les wajibat, mustahabat, ce sont les mêmes. Mais la concentration de la salat, la compréhension de la salat, c'est un constat malheureux. Combien de personnes dans une salat de Isha où il y a 150 personnes sur 5 ou 6 saf, comptez peut-être 2 poissons, ils comprennent ce que l'imam dit dans Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Dans le Fatiha, il y a peut-être 2% des gens qui comprennent que veut dire Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Mais comment voulez-vous que cette salat ait un effet positif sur le cœur? Comment voulez-vous que lorsque l'imam commence à lire namaz de Fajr, qu'on ne s'endorme pas ou qu'on ne pense pas ce qu'on va faire ce matin ou que notre esprit ne soit pas évasif? Si notre esprit est évasif pendant la salat, c'est qu'il y a un travail de concentration qu'on n'a peut-être pas fait, mais c'est également qu'il y a une négligence de notre relation avec Allah. Et notre relation avec Allah ne pourra être complète tant que notre relation avec le Coran ne soit pas parfaite. Car le Fassam m'a dit en ce sens que je vous ai laissé deux choses. Si vous vous y accrochez, vous ne serez jamais égaré. Kitabullah wa sunnati, ce hadith, car ça on le répète tous les endroits. Pourquoi on dit ça? Notre prophète dit que n'importe quelle époque, n'importe quel pays, n'importe quelle circonstance de laquelle vous allez vivre, si vous vous accrochez au Coran et vous vous accrochez à mes hadiths et comprenez le Coran, comment on comprend le Coran? Par la compréhension des ulama, Ibn Kathir, Qurtubi, etc. Comment on comprend les hadiths? Par la compréhension des ulama, des Bukhari, Muslim, etc. Et l'interprétation des imams Abu Hanifa ou Shafi'i, etc., etc. Si, le voisin dit que si vous vous restez accroché à ces deux choses-là, jamais vous ne serez égaré. Mais est-ce que lire le Coran et enseigner le Coran à nos enfants, faire hifz, enseigner à nos enfants le Coran par cœur, est-ce que ça veut dire s'accrocher au Coran? Moi je vous dis non, du tout. On est loin de l'objectif. Mettez pas de tuer par ici, s'il vous plaît, pas devant moi. On est loin, loin, loin de l'objectif. Un sahaba dit au prophète d'Allah, je ne me souviens plus le nom du sahaba, ça m'avait dit que viendra une époque où il y aura l'éloignement, etc. Ça m'a dit, oh prophète d'Allah, mais pourtant, nous on enseigne à nos enfants le Coran. Le prophète m'a dit, oui, mais telle communauté, eux aussi, ils enseignent à leurs enfants leurs livres respectifs qu'ils ont été révélés. Donc si nous nous contentons d'envoyer nos enfants, mais c'est bien déjà, alhamdulillah, que nos enfants, ils savent lire le Coran, ils l'apprennent par cœur. Et comme on disait une fois dans un autre endroit, la consécration pour un papa, c'est quoi? Par rapport au Coran, hein, c'est que son fils, il connaisse le Coran par cœur. Et c'est quoi la fierté d'un père? C'est quoi? C'est que ses enfants, il fait taravi masjid en ville. Et qu'il fait parfois, et qu'il y a bien, tout me dit, Shabash, mon garçon, il y a bien. Là, il est fier. Mon enfant, il maîtrise le Coran. Il croit que son enfant maîtrise le Coran. Et la consécration ultime, ce serait quoi? C'est que cet enfant, il gagne un concours de Coran et qu'il va à Mecca. À l'époque où j'ai fait ce discours, on s'était arrêté à cet objectif. Maintenant, on a pu placer la barre plus haut. On a eu un réunionnais qui a remporté le concours de Coran à Mecca. Mais imaginez la fierté de ce père. Que son fils, je ne veux pas dire que c'est le meilleur qari du monde, mais ce n'est pas loin. Quand vous avez 130 nationalités, on passe du coq à l'âne, quand vous avez 130 nationalités présentes, et que dans ces 130 nationalités, vous avez choisi la crème, c'est-à-dire le meilleur qari, parmi les jeunes bien sûr, le meilleur qari du pays, organisé par une association reconnue par l'Arabita ou autre chose, et qu'ils sont tous là réunis, et que vous en désignez un qui a dépassé, qui a été mieux que les autres, ben, je ne dis pas que c'est le meilleur qari au monde, mais on n'est pas loin. En tout cas, on est dans le très 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 haut niveau. Donc imaginez, pour revenir à l'âne, pour revenir au passé du coq à l'âne, on revient donc, machin, imaginez la joie de ce père dont l'enfant a remporté le concours de Coran. Mais même une personne qui est primée meilleur qari du monde, vous pensez que ce Coran va le sauver le jour de Qiyamah? Inch'Allah, on l'espère. Vous connaissez ce hadith qui dit que la personne qui connaît le Coran, il montera de grâce jusqu'au paradis le nombre de versets qu'il connaît. Alhamdulillah, c'est bien. Mais si je vous dis un autre verset pour vous casser le moral, Al-Quran hujjatun laka aw alayka. Le Coran intervient pour toi, ou alors il va te Voilà. Le Coran sera soit en ta faveur, soit contre toi. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un, il maîtrise le Coran et il le met en pratique, cette personne aura un degré exceptionnel le jour de Qiyamah. Les parents, ils auront des couronnes de nous, etc. Ça, on connaît. Mais si la personne lit le Coran, il connaît le Coran, mais il ne met strictement rien en pratique, vous pensez que ce Coran va agir avec cette personne comme il a agi avec la personne qui mettait tous ses ordres en pratique? Allah seul le sait. Donc qu'on comprenne qu'il ne faut pas qu'on croie qu'on est les meilleurs. C'est vrai que lorsqu'on a des gens qui viennent de l'étranger, de l'Inde ou de l'Angleterre, des Bouzous, qui disent que les enfants à la Réunion lisent bien, c'est vrai. Notre niveau de tajwid, c'est vraiment, mashallah, on a de bons oustades ici. Mais si on se dit que c'est suffisant, mais on est loin de l'objectif, parce que le but c'est quoi? C'est que ce Coran soit vivant. Quand on demandait aux sahaba ou aux époux du Prophète sallam comment était le Prophète sallam, il dit kana khulquhu al Quran. Son comportement c'était le Coran. Mais est-ce que nous notre comportement c'est le Coran? Certes, nous sommes des musulmans dans la masjid, dans nos a'mal, on y est, on répond toujours présent. Mais dans notre vie intérieurement, dans les choses qu'il y a dans notre cœur, dans notre relation avec Allah, dans notre relation avec les gens, dans notre perception des événements de la vie, est-ce que nous agissons comme un musulman? C'est ça la question. C'est ça quand on dit que haqiqatul iman ne sera plus là. 31 minutes, encore 4 minutes pour faire 35, inshallah. Alors la question qu'on voit que Ibn Mas'ud dit que 50 personnes font namaz, il n'y a pas un dont le namaz est accepté. D'accord? Est-ce que je me suis déjà posé une fois la question, après avoir fait un namaz parmi mes 3 ou 4 000 namaz depuis que j'ai 15 ans, est-ce que je me suis déjà posé la question si est-ce que le isha que j'ai fait a été accepté par Allah? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question? Ou alors pour nous c'est automatique. J'ai fait mon namaz, khalas, le devoir est accompli. Quand on entend quelqu'un comme Hazrat Omar ibn al-Khattab, deuxième calife de l'islam, qui a été qualifié par les ulama de la Ummah comme étant nisful islam, la moitié de l'islam, pour l'apport qui a été le sien pour la religion, quand Omar il dit que si on me disait qu'Allah Ta'ala a accepté un de mes sijda, c'est-à-dire parmi tous les a'mal, tous les ibadats de ma vie, Allah a accepté au moins un sijda, je serais déjà satisfait. Les sahaba, ils se faisaient du souci pour leur ibadat. C'est pas, et nous, en commentaire, Salman Azakaya dit dans son livre, nous, à notre époque, quand on fait un péché, on ne se fait même pas de souci. Les sahaba, quand ils faisaient une bonne action, ils étaient angoissés. Est-ce que Allah va accepter, lui ou non? Là, juste à travers cet exemple, vous voyez la différence de iman qu'il y a entre eux et nous. T'as-y? Et pour terminer, le prophète a dit également que viendra une époque où, regardez ça, et dites-moi si ce n'est pas le cas. سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقْعُدُونَ فِي الْمَسَاجِدِ حَلَقًا حَلَقًا إِنَّمَا هِمَّتُهُمَ الدُّنْيَا فَلَا تُجَالِسُوهُمْ. Il y a des, arrivera une époque où les gens se regrouperont dans la masjid par petits groupes et leur objectif, leur fikr, c'est quoi? C'est dunya. Et là, le hadith qui explique ça mieux, qu'une époque viendra où les gens, ils vont se rassembler dans la masjid. Hadithuhum fi masajidihim fi amri dunyahum. Ce qui va préoccuper les gens dans les mosquées, c'est quoi? C'est de parler du dunya. Les gens, ils viennent dans la masjid, ils s'assoient en petits groupes, mais ils ne parlent pas de din. Ils parlent de leur travail, ils parlent d'autre chose, tout ce qui concerne la vie de ce dunya. Le prophète dit, ne vous joignez pas à vous, ne vous joignez pas à eux. فَلَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ. Allah Ta'ala n'a pas besoin de ce genre de personnes. Dites-moi si ce n'est pas le cas. Regardez l'heure de la salat al-Jum'ah, c'est grave ça. Quand on fait du mal, regardez pendant le bayan ou pendant le khutbah, combien de personnes restent à l'arrière, combien de personnes ne donnent aucune importance au khutbah ou au himma, à l'importance de la salat al-Jum'ah. Wallahi, si ce n'est pas les petits signes de Qiyamah qui sont en train de se réaliser jour après jour, dites-moi qu'est-ce que c'est. Le problème c'est quoi? C'est que nous avons le sentiment du devoir accompli. On fait nos ibadat, mais on a oublié le maqsad, c'est quoi? Je suis persuadé que la plupart des musulmans ne savent pas qui est Allah réellement. Si on demande à une personne, donne-moi 10 sifat d'Allah, 10 qualités d'Allah. Est-ce qu'on peut citer 10 sifat d'Allah? Si je dis à une personne dans tel cas de figure, comment tu invoques Allah? Par quel nom d'Allah? Par quelle qualité d'Allah? Quand tu as de telles difficultés, tu penses à Allah à travers quel nom? Quelle est ta réaction face au problème? Est-ce que tu as dans ton cœur ce qu'on appelle husnul dhanni billah? Une pensée, comment on pourrait dire ça? Une pensée positive d'Allah. Ou alors quand il arrive un truc de bien, alhamdulillah, et quand il arrive un malheur, pourquoi il arrive ça, je ne comprends pas, j'avais pris mes précautions pour autant. Tout ça, ça traduit une absence de réalité de iman dans notre cœur. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Un dernier hadith, hein, ça rejoint ça. Le prophète me dit que viendra une époque où la yabqa min al-Qur'an illa rasmu, que la seule chose qui restera du Qur'an, ce sera l'écriture. Et dans un hadith de Abu al-Ali, elle dit que viendra une époque où le Qur'an ne sera plus réellement dans le cœur des gens. Et voilà la différence entre eux et nous. Voilà. Notre lecture, et dans certains d'autres, peut-être qu'on viendra à ça, qu'on parlera du Coran, parmi les signes de Qiyama, il y a des signes qui concernent le Coran également, parmi ceux-là, qu'il y aura des gens qui donneront beaucoup d'importance au tajwid. Mais une exagération de le tajwid. C'est bien d'avoir de bons qari, mais le problème c'est quoi si on se focalise sur le tajwid, et en laissant les ahkam sans importance, là on a tout faux. Si on se focalise sur le tajwid, et qu'on n'a pas la pratique du fond, on n'enseigne pas à nos enfants la réalité du Coran, alors là, on a tout faux. Alors, il dit que voilà la différence, ces deux lignes résument tout. وَلَا يَجِدُونَ لَهُ حَلَاوَةً وَلَا لَذَاذًا. Que les gens, ils lisent le Coran, bien sûr, mais ils ne trouvent pas la douceur de la lecture du Coran. Ils ne trouvent pas le plaisir, l'augmentation de iman n'a pas lieu lorsqu'on lit le Coran. Et regardez la réaction, la mauvaise interprétation des gens, et ça c'est Shaitan qui joue d'eux. In qasiru amma umiru bihi, s'ils ne donnent pas leur droit, s'ils ne s'acquittent pas de leur devoir auprès d'Allah, qu'est-ce qu'ils disent? Inna Allah ghafur rahim. Allah il pardonne ça. Et combien de fois on n'a pas entendu? Allah pardonne ça. Allah il ghafur rahim. Exactement mot pour mot, ce que le prophète m'a annoncé il y a 15 siècles de cela, que lorsque le musulman ne fait pas ce qu'Allah lui a demandé, il dit quoi? Allah est Ghafur Rahim. Mot pour mot, notre prophète l'a dit. Wa in amilu bima nuhu anhu. Et s'ils accomplissent une action qui était haram, ils disent quoi? Sayaghfiru lana. Allah va pardonner. Allah va pardonner de cette façon. Même réaction. On se dit que la grande nuit qui arrive, ou dans Ramzan, Allah va pardonner, etc., etc. Taïb? Ils disent quoi? Inna lam nushrik billahi shay'a. Nous, on n'a pas fait shirk, nous. Et par analogie, on peut trouver d'autres excuse, les gens disent, oui, mais nous, me fait tel péché, mais me fait pas telle chose, au moins. Ça n'est plus grave. D'accord, j'écoute un peu la musique, mais même ça pas en boîte, au moins, par exemple. Ce genre de réaction parmi les jeunes, ok? Donc, ça me dit que l'interprétation même du dîn sera erronée. Ok? Donc, viendra cette époque où la relation avec le Coran sera tellement superficielle qu'il ne restera que les termes, que les lettres. Wala min al-islam illa ismu, et il ne restera de l'islam que le nom. Yatasammu nabihi. Ils se disent musulmans, mais ils en sont loin, loin, loin des réels musulmans. Masajiduhum amira, leurs mosquées sont belles, sont construites, mais il n'y a pas de hidayat dans ces mosquées. Il n'y a pas de hidayat dans ces constructions. Bon, donc l'objectif de ce discours, de ces quelques paroles, c'est quoi? C'est pas juste de marteler, de dire que voilà, tout va mal. Ce n'est pas juste d'être pessimiste, de dire que voilà, cette dégradation dans les mœurs, ça vient du signe de Qiyamah. Hein, le Prophète a dit, ce hadith, est-ce que je t'informe, quelle est la première chose qui va être enlevée des cœurs? Elle dit, oui, au Prophète d'Allah, dites-moi, al-khushur, hatta la tara khashi'an, la sincérité, la dévotion, c'est la première chose qui sera enlevée des cœurs. On ne trouvera plus une personne qui a la dévotion, réalité des ibadats qui le font réellement dans leur cœur. Mais les ibadats deviennent un devoir, ou alors une routine, ou alors un héritage culturel. Il n'y a que des gestes, mais il n'y a pas de fond. Alors l'objectif de ces paroles, ce n'est pas de se dire qu'on est en train de s'éloigner, on va vers la perdition. Non. Une des leçons à retenir, c'est directement ce qu'on va expliquer une prochaine fois, c'est que parmi ces 90% des gens qui vont entrer dans ce que le Prophète m'a dit à travers ces hadiths, on trouvera un pourcentage, un 10% ou un 5% de la population musulmane qui, dans ces époques de dépravation, resteront accrochés au dîn d'Allah. Et ce seront là les meilleurs des gens. Dans un hadith, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui vraiment encourage quand on voit comment la pratique devient difficile d'année en année, d'époque en époque, comment nous sommes stigmatisés, comme le Prophète dit qu'il viendra une époque où pratiquer sa religion sera comme prendre une braise dans sa main. Et wallahi al-azim, c'est comme ça de le jour. Quand vous êtes barbu, vous êtes barbu, c'est déjà péjoratif, vous voyez. Quand vous gardez la barbe, vous mettez votre pantalon au-dessus de la cheville, etc., et que votre femme, elle couvre son satar comme Allah l'a demandé dans le Coran, on dit que ce sont des extrémistes, on dit que ce sont des gens qui sont comme ci et qui sont comme ça. Et le pire, c'est que dans la communauté musulmane, vous allez trouver des gens qui disent que faut pas exagérer, il faut être modéré. Oui, il faut être modéré, mais vendre votre dîne au nom de la modération, non. N'allez pas dire à un jeune, écoute, garde pas ta barbe, tu n'auras pas de travail. Ne dites pas ça. Si vous ne voulez pas garder, ne gardez pas. Mais ne prenez pas ce genre d'excuses, wallahi l'azim. Parce que lorsque cette personne sera auprès d'Allah directement, auprès du tribunal d'Allah, laysa baynahu wa baynallahi hijab, il n'y aura personne entre lui et Allah, il répondra de ses questions, de ses propos. Est-ce qu'il aura le culot? Est-ce qu'il aura le courage de dire ces mêmes propos? Bien réfléchir avant de dire quoi que ce soit à propos du dîn. On peut parler de nous, de nos défauts, de nos péchés, mais quand on parle du dîn d'Allah, il faut faire très attention. Ne pas dire quelque chose du dîn tant qu'on n'est pas sûr. Et le prophète m'a dit que, on va s'arrêter là, on est en train d'entrer dans un tout autre chapitre. L'objectif, c'est de connaître, de savoir, on va voir la prochaine fois, que parmi ces gens-là, ceux qui resteront attachés au dîn d'Allah, ce seront là les meilleurs des gens. Ce seront les gens qui auront les plus hauts degrés. Et on dira juste le hadith, pour terminer, c'est une bonne note, parce qu'on n'a dit que des choses qui cassent le moral. Hadith de Utba, il dit que le prophète m'a dit, « Min waraikum ayyamus sabr » viendra une époque où il faudra faire beaucoup de patience. « Littamassuki fihinna yawma idin bimislima antum alayhi » Il a dit, les gens qui resteront fermes de leur dîn, à cette époque de dépravation, ils auront la récompense de 50 parmi vous. Ka ajri khamsina minkum. Et ça veut dire, au prophète d'Allah, ya Nabi Allah, awa minhum. Ils disent, oh, c'est plutôt, ils auront la récompense de 50 parmi eux. Il a dit non, le prophète a dit non. Bal minkum, bal minkum, bal minkum. Trois fois, le prophète a dit non. Cette personne qui restera ferme de son dîn à une époque de dépravation, de fitna, elle aura la récompense de 50 personnes entre vous, parmi vous. Comme vous, pas comme les gens de leur époque. Donc à travers ce hadith, on comprend que rester fait. Et le hadith, ça rejoint. Les hadiths, ce sont des puzzles. Pour ça, m'a dit que Allah il rétribue selon les difficultés. Faire la salat lorsqu'on habite ici à La Réunion, lorsqu'on travaille, on est dans un bureau, on a un commerce, et tirer un temps pour faire 4 faras de asar. Je ne parle plus de sunnat là. Faire 4 faras de asar, ce n'est pas comme quelqu'un qui habite en face de Haram Sharif, qui a azan de micro et qui s'en y va, il fait namaz. Il a 700 000, mais il n'a pas eu le taklif pour faire. Je ne dis pas que leur salat vaut mieux, là ou Allah. Personne n'a le droit de se prononcer là-dessus. Mais Allah regarde également le sacrifice. Hadith qui dit que plus c'est difficile d'accomplir une action en ce sens, plus la rétribution sera élevée. Et ça, c'est tout à fait logique. Allah t'a donné le tawfiq de comprendre. Et souvent, quand je vois certains jeunes, alhamdulillah, qui font l'effort des lycéens, j'ai des amis qui sont des jeunes profs au lycée, ils ont 21, 22 ans, ils ont eu la CAPES très tôt, ils sont profs de maths ou autre chose au lycée Le Comte de Lille, ils sont hafiz al-Qur'an, ils gardent leur barbe. Je regarde ces jeunes-là, je dis, ils ne sont pas encore mariés. Je dis que franchement, si des gens de Makka et de Madina, ils vous voyaient, ben, ils se seraient étonnés, ils seraient restés, subhanallah, hébétés. Comment dans un endroit comme ça, vous pouvez rester iltizam et sunna, rester ferme dans la pratique de la sunna? C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Qu'Allah t'en tawfiq à ces jeunes qui sont dans le dîn, de rester accrochés, et que ces jeunes qui sont éloignés, qu'Allah les ramène vers le droit chemin, et qu'Allah donne la conscience nécessaire aux parents pour prendre en main leurs enfants très tôt, pour les donner une éducation islamique correcte, afin que lorsque ces enfants grandissent, deviennent des adolescents, des jeunes adultes, et ils ont les bonnes bases pour pratiquer le hadith, et qu'ils deviennent un maillon fort dans la transmission de la chaîne de Hidayat aux autres générations. Ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.